Bienvenue au Palais Sécur, épisode spécial PME. Je suis avec Claude. Comment vas-tu?
Bonjour Nicolas, je suis content de te voir.
Toujours au chalet. Donc, on enregistrait un premier sur les postes de travail dans cette séance-ci au chalet. La deuxième, on va aborder plus l'intelligence artificielle et je te laisse commencer avec tes questions.
Oui, ben bonjour. Dans le fond, je suis content de participer à ce même podcast au chalet. Ben, dans le fond, j'aimerais ça, on va aborder l'IA. Parce que je pense que l'autre jour, on en a parlé, mais je vais mettre je vais poser des questions. On va essayer de voir parce que je vois qu'il y a une tendance au niveau des PME d'utiliser l'IA pour n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Puis je veux savoir au niveau de la sécurité, qu'est-ce que ça implique. J'aimerais ça que tu redises comment que ça pense un IA et puis, ça pense-tu vraiment?
Ça pense pas. L'IA, c'est juste un modèle statistique qui prédit le prochain mot dans une phrase. Donc, ça n'a aucune capacité de réflexion. Même si certains modèles prétendent qu'ils réfléchissent, le seul fonctionnement que ça a, ça fait juste comme rerouler sur lui-même. Fait que ils font juste relancer le volet statistique sur lui-même. Donc, ça a une certaine mesure, puis c'est les données d'entraînement qui vont donner quelque chose. Ça ne réfléchit pas. Donc, c'est juste appuyé sur l'ensemble de la connaissance. Donc, c'est une très grande bibliothèque. Très grande. Encore là, c'est pas un engin de recherche. Je veux pas que les gens pensent qu'en posant une question, ils vont avoir nécessairement une bonne réponse de l'IA, mais c'est vraiment juste un modèle statique qui prévoit le prochain mot selon les données d'entraînement qui ont été consommées pour y arriver.
Autrement dit, tu as plus de chances d'avoir la bonne réponse si tu poses une question dans Google que à l'IA.
Je t'aurais dit oui jusqu'à temps que Google mette l'intelligence artificielle en entrée de jeu. Là. Effectivement, dans une recherche, dans une base de données, c'est comme ça d'aller dans une vraie bibliothèque, de poser la question, d'avoir le livre et de chercher. Tu as plus de chances d'avoir la bonne réponse comme ça que d'espérer que quelque chose qui a lu en diagonale, parce que l'intelligence artificielle a lu en diagonale le contenu, soit capable de retenir des concepts sophistiqués qu'on pourrait trouver dans un livre dans lequel on irait lire nous-mêmes le dit contenu. Là.
OK, je ferai pas de joke avec mon nom et le nom d'un IA que tout le monde connaît.
Notamment, ouais. C'est bien. J'aime bien parler à Claude.
C'est bien. Y a-t-il des avantages pour une PME d'utiliser l'IA?
Ben oui, il y a des gains. Quand c'est bien fait, il y a des gains assez intéressants à aller obtenir par rapport à l'usage de ça. Là, il faut faire aussi la distinction que ce qui a été popularisé depuis le rendu public de ChatGPT, par exemple, c'est l'intelligence générative de type LLM, Large Language Model, c'est-à-dire être capable de discuter avec l'intelligence artificielle. Par ailleurs, l'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, de façon théorique depuis presque 100 ans maintenant, et de façon pratique depuis une bonne trentaine d'années ou une quarantaine d'années qu'on le voit en application. Ce que les développements technologiques ont permis dans le développement des algorithmes, donc pour le Transform, c'est d'être capable de prendre la capacité de fonctionnement de l'intelligence artificielle dans un modèle plus petit, donc avec moins de puissance, donc de rendre ça accessible à la technologie comme on a. Donc oui, il y a des gains, parce que ça, on l'utilise depuis longtemps d'ailleurs, cette dite intelligence artificielle, sous le format LLM qu'on a là, ramène des outils généralistes. Donc comme un généraliste, ça va faire une bonne job globalement, mais quand on descend dans des éléments beaucoup plus précis, là, ça devient plus difficile d'avoir une qualité de rendu qui est faite. Ensuite, il faut aller plus loin, il faut développer des modèles ou entraîner des modèles qui sont propres à notre besoin spécifique. Mais on a des gains qui sont quand même intéressants de ce côté-là, qui s'en viennent avec l'agentique et d'autres facettes. Mais prudence, c'est des technologies nouvelles. Les gens ne savent pas ce que ça fait encore. C'est très dangereux. Donc, regardez les autres se faire mal afin de vous faire mal avec ces outils-là.
Dans le fond, l'autre question suivante que je me pose, quand on parle au niveau de l'aide à la décision, on peut-tu vraiment se fier si on pose une question avec avec plusieurs volets? Est-ce que...
Il y a de bonnes chances qu'il hallucine en cours de chemin sur ce genre de choses-là. Puis là, ça dépend comment le modèle est déployé. Quand on vient adosser le modèle avec du contenu robuste, en plus de son entraînement standard, on est capable d'avoir un meilleur niveau d'assurance qui n'ira pas halluciner. Par ailleurs, puis je ne sais pas, je l'avais dit la dernière fois, moi, je ne poserai pas de questions médicales à l'intelligence artificielle parce que je ne serais pas capable de déceler du moment qu'il va halluciner parce que je n'ai pas la connaissance pour déceler ce genre de choses-là. Quand on est déjà un expert dans un domaine, on peut poser disons, avoir une certaine forme de conversation avec l'intelligence artificielle et nous aider à explorer des avenues parce qu'on va être capable de déceler l'hallucination qu'il y a dans ce fonctionnement-là ou dans la réponse qui nous est fournie.
Il existe-tu des guides sur les bonnes pratiques pour l'utilisation de l'intelligence artificielle?
Il y en a de plus en plus. Les gouvernements du Québec en ont sorti une, le gouvernement fédéral en a sorti une. Il y a des agences européennes qui en ont sorti, il y a des agences américaines qui en ont sorti. Donc, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de facettes par rapport à ça qui incitent généralement à la prudence, de lignes directrices qui permettent d'encadrer et de faire un bon usage de l'intelligence artificielle pour ne pas se faire mal en l'utilisant, parce que c'est souvent ça le danger. C'est qu'on, comme on a une mauvaise maîtrise ou on est imprudent avec l'usage de celui-ci, ben on va tomber dans des pièges. Les articles dans les journaux sont assez importants sur le nombre d'erreurs qu'il y a eu. Il y en a eu, au moment où on enregistre au Québec, il y a eu un cas qui a fait les manchettes, mais il y en a partout de ce genre de cas-là où des gens sont un peu négligents, ne suivent pas les bonnes pratiques qu'on va retrouver dans ces guides-là en général. Et qui vont dire, ben, vérifiez si elle hallucine pas, vérifiez vos sources, vérifiez quand même, ne pas se fier les yeux fermés à l'intelligence artificielle, parce que dans la majorité des cas, c'est très difficile de se fier les yeux fermés. Là.
Ah, c'est bien, merci. Dans le fond, on va parler aussi, dans les PME, il y a beaucoup de développement, ce qui était sûrement fait, il était toujours fait à date par l'externe. Maintenant, ça fait du code, il paraîtrait.
Oui, ça fait du vibe coding. D'ailleurs, on s'est amusé avant d'en commencer à enregistrer à faire des traductions qui étaient particulièrement comiques. Et essentiellement, c'était plus vers la fainéantise dans laquelle ces éléments-là sont sortis. Moi, c'est très drôle. On revient un peu, puis la préambule est intéressante, puis la façon que tu as posé les questions, c'est que quand on va faire du vibe coding, c'est qu'on va embaucher un employé non spécialisé pour faire une tâche spécialisée. Donc, c'est comme si on voulait faire construire un meuble par quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, ce n'est pas un ébéniste qui est spécialisé, que c'est son travail, qui a de l'expérience, qui a de la formation dans ce métier-là, va faire un meuble top. Si tu demandes à quelqu'un qui a gossé un peu, mais pas plus d'expérience que ça, va te gosser un meuble. Et ce meuble-là, c'est pas nécessairement robuste, sera pas nécessairement élégant, sera pas nécessairement durable. Le vibe coding, c'est essentiellement la même chose. C'est comme de demander à quelqu'un de non spécialisé de nous faire un meuble spécialisé, une fonction spécialisée, et d'espérer que ce code-là va être durable dans le temps. On utilise le terme dette technologique en général dans le domaine pour exprimer cet élément-là où on doit rénover rapidement. Donc, comme dans la construction, comme dans la fabrication, si on a une construction de faible qualité, on va devoir la remplacer beaucoup plus rapidement parce qu'elle va briser plus rapidement, elle va s'abîmer et peut-être que sa qualité est tellement faible qu'on va devoir la remplacer au complet parce qu'on n'est pas capable de rien faire avec. Le vibe coding, c'est la même chose, donc on crée une dette. Donc, on va devoir remplacer ou rénover ces composants-là qui ont été vibe codés par du code normalement par des humains, parce que c'est ça que les compagnies font à l'heure actuelle, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire avec du vibe coding. Et c'est d'espérer que la personne qui vibe code a ce degré de connaissance-là. L'exemple en menuiserie, par exemple, ou bénisterie est un bel exemple. Mais on le retrouve aussi le fait qu'un développeur est formé en ingénierie de système, donc il est capable de concevoir le système au complet, donc le plan, et de faire un système conséquent. Le vibe coding ne fait pas ça. Donc, on code effectivement à l'instinct, on code au pif. C'est de la programmation au pif qu'on fait et il ne faut pas espérer que ça aille plus que ça. Ça a des bénéfices, il ne faut pas les diminuer, comme je mentionnais pour le précédemment. Mais quand on voit des systèmes de production qu'on veut déployer sur Internet où on appuie le cœur de notre business là-dessus, c'est jamais pas recommandé parce que c'est des systèmes qui sont fragiles et qui peuvent entraîner des conséquences importantes par la suite.
Dans le fond, c'est comme si on recule de dizaines d'années, le programmeur faisait un test pour « OK, est-ce que je suis capable de faire une telle action avec mon code? » Puis après ça, lui, un coup qu'il savait que ça se faisait, il pouvait développer le système de A à Z avec les règles de...
Oui, c'est ça, les règles de l'art, les connaissances, parce que ces gens-là sont formés. C'est pas quelqu'un dans son sommet, même s'il y en a des gens qui sont très bons, qui vont être capables de... sans formation, faire du code qui est très, très intéressant. La plupart des gens ont suivi une formation encadré formel à l'université ou au cégep, qui leur permet de suivre les bonnes pratiques, de maîtriser ça et de connaître comment on fait des projets qui sont durables dans le temps et qu'on est capable d'entretenir aussi. Parce que le propre du code qu'on a, c'est qu'il est évolutif, il va évoluer dans le temps. Et si on doit réécrire le code au complet à chaque fois qu'on a une évolution à faire, on n'est pas rentable parce que ça va nous coûter le coût dû à chaque fois. Donc, à terme, ça nous coûte beaucoup plus cher de Vime coder que de d'installer des très, très bonnes bases sur notre programme qui va évoluer, qui va grandir, qui va faire face à nos nouveaux besoins. On développe un nouveau marché, on développe de nouvelles stratégies. Il faut que le code soit capable de suivre ces éléments-là. Et s'il a été bien fait, ça va être facile. S'il a été vibe codé, il est très probable que vous deviez recommencer de zéro une nouvelle fois pour faire ce genre de choses-là et tous les risques que ça comporte et les erreurs inhérentes à ça et les problèmes de sécurité. Parce qu'il a découvert récemment, donc on enregistre, que sur le code qui est généré, le degré de vulnérabilité qui est là, qui est présent, est quand même assez important. Et là, encore là, on remet dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune connaissance en programmation, en algorithmie, cet élément-là. Donc, on ne peut pas espérer que cette personne-là soit capable de voir les problèmes de sécurité. On a des exemples publics, plusieurs exemples publics de programmes qui ont été diffusés, qui se sont fait casser en mille morceaux publiquement, aux États-Unis notamment, mais pas exclusivement, et qui démontre à quel point c'est dangereux de faire ça si on n'a pas les connaissances et les conséquences. Dans le cas, si on prend l'exemple de T, par exemple, qui est un très bel exemple, où des informations personnelles de femmes vulnérables ont été rendues publiques sur Internet de par l'erreur qu'il y a. Ce n'est pas tout le monde qui a ce genre d'informations-là dans les mains, puis c'est heureux comme ça. Mais tout dépendant de ce que vous avez, sachez que vous pouvez perdre le contenu de vos données parce que c'est mal configuré. On parlait de mauvaise configuration dans l'épisode précédent. Parce qu'on applique un gabarit, par exemple, sur un poste pour arriver là, l'intelligence artificielle a peu probable qu'il va impliquer le bon gabarit, puis il va vous laisser vous débrouiller avec. Même si ça fonctionne, ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien, essentiellement.
Dans le fond, si on. Mettons que quelqu'un développe une application avec l'IA, au fur et à mesure, il rajoute des fonctions. Il peut venir un temps que l'IA ne sera plus capable de faire en sorte que ça fonctionne pour les derniers ajouts ou il va toujours se débrouiller, nonobstant de la sécurité, pour que ça fonctionne.
Il va toujours s'arranger pour que ça fonctionne. L'objectif, l'IA est axé sur l'objectif, pas sur le chemin. Donc l'objectif, justement, quand tu parlais, c'était est-ce que ça réfléchit ou ça, c'est intelligent? La réponse, c'est non, parce que le processus est inexistant. Quand on a un développeur, le processus est important d'arriver à recevoir les besoins et transformer ça dans un programme qui va être pérenne, qui va être capable de rester dans le temps, qui va être sécuritaire, qui va représenter certains aspects. L'intelligence artificielle va juste arriver à l'objectif. Quoi qu'il arrive entre les deux. Et si on prend dans un prompt standard, ça fait la même chose pour une question banale. Dans le vibe coding, c'est la même chose. Si on demande deux fois le même résultat, on va avoir deux codes différents qui arrivent au bon résultat, mais avec deux façons différentes de faire, puis il y a des vulnérabilités différentes et il invente, il va halluciner un peu. Fait que si on n'a pas la connaissance, quand je parle du médecin, ben moi, je vais voir un médecin pour me faire ça, je ne vais pas consulter de l'intelligence artificielle parce que j'ai confiance que le médecin a étudié et sait ce qu'il dit. J'ai beaucoup moins confiance que l'intelligence artificielle arrive à ce genre de choses-là. Donc, pour le vibe coding, c'est la même chose. On est en train de créer des pièces d'infrastructure massives dans notre société sur des choses qui sont construites par des gens qui ont des machines qui n'ont pas la connaissance.
Dans le fond, ce qu'ils appellent dans le fond l'illusion de qualité.
Oui, c'est une belle façon de le représenter parce que comme ça arrive à l'objectif, on est moins regardant comme humain, savoir est-ce que ça le fait bien. Et on ne tend pas à regarder si ça le fait bien, mais ça arrive juste à l'objectif.
Là, c'est une question que je pense que les gens qui utilisent l'IA pour programmer n'ont peut-être pas pensé. C'est quoi les droits d'auteur au niveau de leur code qui mettent du temps? Là, on ne dit pas qu'il n'y a pas de temps de mis là-dessus, mais c'est quoi la résultante de tout ça?
C'est intéressant de l'aborder comme ça. Puis ça c'est sur la globalité de ce que l'intelligence artificielle va générer. À l'heure actuelle, au moment où on enregistre, il y a un jugement aux États-Unis qui est sorti, qui ne reconnaît pas de droit d'auteur de ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Donc, si vous faites des images, du texte, du code, celui-ci n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc, c'est comme du code public essentiellement qui est fait en l'occurrence parce que le code Il y a comme un seuil minimal à atteindre selon le jugement. J'ai pas lu le jugement, j'ai juste lu quelques éléments qui me permettent de conclure à ça. Donc, il y aurait un seuil minimal à atteindre pour que le code soit protégé. Donc, si pour un codeur comme ça, si vous l'utilisez de façon sporadique pour vous aider à quelques petits éléments dans une très grande, un très grand code, ben juste ces éléments-là sont tellement petits que l'ensemble du code et ces informations-là demeurent protégées. Si 90% de votre code est généré par la machine, il est fort probable que ce code-là ne soit pas protégé. La conséquence de ça, c'est que si on vous le vole, vous n'avez aucun recours pour vous protéger. Fait que il n'y aura pas de poursuite possible pour vous autres, donc vous avez essentiellement perdu ce que vous avez fait.
Mais moi, mettons que je suis une PME, puis je te dis, ben moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une licence pro que j'utilise. Ça me protège-tu?
Ben, au niveau de ça, c'est un aspect distinct. Le niveau droit d'auteur, ça, c'est un volet, ça, sur le contenu. L'autre, la licence pro, et où je pense que tu veux te diriger, c'est la réutilisation de ce qu'on envoie, donc la protection de notre droit, de notre propriété intellectuelle à l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui transfèrent beaucoup d'informations vers l'intelligence artificielle. Les seuls modèles à l'heure actuelle qui protègent de facto, donc la confidentialité, donc ne réutiliseront pas nos informations sur leur bonne parole, parce qu'on s'entend qu'on envoie ça à des grandes compagnies, puis on espère qu'ils respectent leur parole. C'est les modèles, c'est les licences de type entreprise. On va trouver ça avec Copilot, par exemple, avec Gemini. Quand ils sont rattachés à une licence entreprise avec, je nomme M365 chez Microsoft ou Google Workspace du côté de Google, ils vont être protégés. Et c'est les licences entreprise parce qu'on peut avoir des licences inférieures du côté de M365 et Google Workspace et à ce moment-là, les protections ne sont pas présentes. C'est la même chose dans les licences de ChatGPT ou Claude, par exemple, où lisez bien le contenu parce que, dans le cas de Claude, parce que lui, je le connais, ils ont changé de licence au courant de l'année passée, l'automne passé, et on était dans un contexte où automatiquement, on autorise la réutilisation de l'information. Il faut décocher pour retirer cette réutilisation pour l'entraînement des modèles. Donc, il faut être très prudent parce que ces compagnies-là ont un très gros appétit qu'on les nourrisse avec nos informations. Donc, il faut être très prudent quand on dépose ces informations-là. Et on ne peut pas prendre pour acquis qu'ils ne réutiliseront pas ce qu'on met là. Donc, si vous voulez développer des choses que vous voulez protéger, c'est peut-être pas le bon endroit de payer quelqu'un pour vous accompagner ou payer quelque chose parce que ces informations-là pourraient se retrouver dans les données d'entraînement. Donc, pour être restituées à un autre client de cette solution-là.
Ça veut dire, entre autres, que le code qui a été généré pourrait être réutilisé ou ça ne s'applique pas dans ce cas-là?
Ça pourrait être réutilisé. C'est-à-dire que le code qu'il génère comme ça fait partie de sa base d'entraînement, fait qu'il se réentraîne comme ça, à savoir les prompts et les réponses qu'il donne vont servir à réentraîner. Et du code comme ça, de toute façon, il n'est pas protégé par le droit d'auteur parce qu'il l'autorise à cette réutilisation-là. Et ce qui est magique dans du code, c'est qu'il y a tellement de volume de code qui est fait, donc qui émite. Parce que c'est une limitation, l'intelligence artificielle, il va imiter les codes qu'il a vus un peu partout. Donc, c'est pour ça que c'est très efficace pour des petits projets. Puis ça, moi, je l'utilise. C'est pour ça qu'il faut nuancer des petits projets internes, des choses, des petits rapides, qui n'ont pas nécessairement une qualité de dite production ou qu'on va exposer à Internet. Il n'y a pas trop de problème d'utiliser ce vibe coding-là. Mais quand on développe des applications complexes, qui sont face à Internet, c'est un peu moins intéressant à ce moment-là de le faire, puis il y a des dangers inhérents à ça.
Merci beaucoup, Nicolas. Là, ça fait le tour pas mal de ce que je voulais parler au niveau de l'IA, pour le vibe coding. J'ai une question, c'est un nouveau, tantôt on a essayé une question noire, mais là on va faire une question par rapport. Dans le fond, quand dans les PME, souvent on fait des achats. On fait des achats avec Amazon, on fait des achats avec AliExpress, Temu, puis madeinchina.com. Y a-tu un danger pour une PME d'acheter, en fond, mettre ses informations sur des sites de même pour avoir accès à des produits de...
Il n'y a aucune protection des informations dans les choses de Chine. Fait que si vous achetez sur Alibaba, Temu, ces affaires-là, il n'y a aucune protection qui est faite. Au niveau de vos informations, le produit qui vous est vendu peut contenir des produits chimiques et toxiques que vous ne connaissez pas parce que les normes de production en Chine ne sont pas les mêmes qu'on a ici. Donc, dès lors, il y a des problèmes qui sont peut-être associés à ce genre de choses. On a déjà vu de la mélamine dans le chocolat qui était vendu qui venait de la Chine. Donc, il y a des dangers associés avec ce genre de produits-là. Donc, et les produits et les vendeurs que tu mentionnes sont des revendeurs de très faible qualité. Temu, c'est n'importe quoi. Là. C'est vraiment de la cochonnerie qu'ils nous vendent parce que c'est le modèle d'affaires qui est fait. Et les gens encouragent ce modèle-là, mais ils ne devraient pas parce que c'est juste de la cochonnerie qu'ils nous envoient. Et peut-être des aliments qui sont toxiques ou qui sont si c'est des aliments non consommables parce qu'il y a de la mélamine dans le cas du chocolat, ou il y a des produits chimiques qui sont sur les surfaces des objets ou ainsi de suite. Donc, il faut être très, très prudent. Et il n'y a aucune loi de protection. Fait que si on envoie toutes nos informations, ben, la compagnie de labo va le revendre à n'importe qui d'autre en Chine. Et le gouvernement chinois accède à toutes les informations qui sont des compagnies chinoises. Fait que c'est pas top. C'est pas la meilleure chose qu'on fait.
Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de te déplacer au chalet pour répondre aux questions. Puis je te souhaite une belle redescente.
Oui, tant que tu ne me pousses pas en bas, ça va bien aller. Merci.
Merci, Nicole.